Bienvenue tout le monde sur La POC. JB Gagné, ton animateur, et avec moi cette semaine, Sylvain Rioux.
Hey, hey, salut mon JBLIDLIDLIDOU.
Et Nicolas Desrosiers.
Yeah.
Je ne savais pas quoi répondre, fait que je passe à d'autres choses.
Ça ressemblait un peu au Unbelievable. Belle entrée en scène.
Mais tu sais, c'est pas facile, hein, parler l'anglaise.
What a night again. It must be an unbelievable feeling. Score two goals.
C'est mon préféré.
You're Jean-Benis Benoble.
Exact.
You're Jean-Benis Benoble.
Cette semaine, à la POC, ben, on est à quelques jours de la date limite des transactions. Au moment d'enregistrer, on est le 21 février 2019. Le Canadien affronte les Flyers de Philadelphie. Et là, en ce moment, c'est 3-0 après une période. On verra comment est-ce que la game va évoluer. Le Canadien se classe quand même bien pour les séries. Et la première wildcard repêchée. Avec ses 71 points, dépasse Columbus à 69. La Caroline est tout près à 68. Et si les séries débutaient aujourd'hui, le tricolore affronterait les Islanders de New York. Phew!
Qui est probablement la seule équipe que je pourrais voir Montréal avoir.
Parce que Chris, que Tampa Bay, c'est pas un bon deal.
Hey, écoute, contre Tampa, là, je pense qu'ils se font sortir en deux games. Puis. Il déclare forfait pour les deux autres.
Ah ouais, c'est clair.
Il déclare forfait pour les deux autres, je pense, parce que calvaire que ça serait
là,
pas beau.
Sylvain, toi, tu vas pouvoir reculer un petit peu plus loin, tu vas pouvoir que moi puis Nick, là, mais Tampa Bay.
C'est quoi, tu es en train de dire que je suis vieux?
Ben, un peu, t'es un petit peu plus vénérable que nous, là. Soyons francs, là. Puis tu sais, je l'ai dit avec plein de douceur et d'affection, là, mais Tampa Bay est une sapristi de machine de guerre comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Moi, de mémoire, là, je te dirais les Red Wings là, avec Lidstrom qui était vraiment une puissance. L'Avalanche du Colorado 96 là, dans ce coin-là, là, quand c'était la finale avant le temps dans l'Ouest. Là, c'était les gros affrontements. C'est les plus gros clubs que j'ai vus. Et même là, je pense pas qu'ils dominaient autant loin devant les autres équipes du circuit comme Tampa Bay le fait. Là.
Ça n'a aucun sens.
T'sais, c'est fou.
Ouais, non, je suis d'accord. Écoute, tu sais, j'essaie de penser en même temps, puis tu sais, oui, c'est probable. Mais tu sais, on oublie là, si Chicago, dans ces grosses années, Chicago là, ils ont comme pas eu de défaite en temps réglementaire les 23 ou 25 premiers matchs de l'année. Tu sais, c'était dominant ça aussi là. Tu sais, on parle de là 6-7 ans là.
Ouais. Ben, c'est parce que tu as la dualité Chicago-Pingouin dans la même période aussi.
Oui, ben c'est exactement ça. C'est... Mais non, écoute, mais Tampa, mais je vais peut-être me faire pitié des roches, là, mais moi, je suis encore un des ceux qui n'est pas convaincu par Tampa nécessairement.
Qu'est-ce qui... Pourquoi? Nick, vas-y.
Ben, honnêtement, je pense, ben c'est un peu de mal, tu sais, c'est le même club que l'année passée. Ils ont pas fait beaucoup de changements. J'ai comme l'impression que au début, c'est sûr et certain que ces premières rondes, il y aura pas de problème. La deuxième, encore là, tu sais, là ils vont devoir affronter probablement Boston, puis finir par pogner Toronto également. Fait que tu sais, c'est pas assuré qu'ils vont être en finale de la Coupe Stanley, mais c'est sûr qu'ils ont, tu sais, c'est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, sont très durs à compétitionner contre, mais j'ai hâte de voir. Pour vrai, ça va être des belles séries cette année, partie comme celle-là.
Oui, ça j'avoue. Là. Écoute, moi, c'est parce qu'ils m'ont pas convaincu pendant toute l'année passée. T'sais, les gros canons, bon, tu sais, Kucherov, là, à partir des 10 ou 15 dernières games l'année passée, il était comme tombé à plat, tu sais. À 15 games de la fin, il y avait comme 20 points d'avance sur McDavid au sommet des marqueurs, puis McDavid l'a rattrapé parce qu'il y a eu une sacrée bonne séquence, mais parce que Kucherov est tombé complètement au neutre aussi, puis ça s'est poursuivi pendant les playoffs. Tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, puis je crache pas sur eux autres, là. En ce moment, c'est de loin la meilleure équipe de la LNH. Mais est-ce qu'ils vont l'être quand ça compte? Moi, c'est plus là que je me pose des questions. Moi, je pense encore que l'équipe à battre, c'est Washington, malgré tout, parce que là, ils ont goûté, mais je pense qu'ils ont encore soif. Tu sais.
Ah oui, Ovechkin a soif, ça c'est sûr. L'an passé, de l'affrontement entre ces deux équipes-là, ce qui a fait la différence, c'est le côté robustesse. Est-ce que Washington peut répéter, parce que c'était des longues séries, c'est un gros été surtout. Et Tampa Bay flotte, on dirait qu'il touche plus à terre, c'est un club qui vole comme le vent. Est-ce que cette robustesse-là peut encore être la kryptonite de Tampa Bay? Je ne sais pas, là, mais c'est un gros questionnement. Et peut-être on aura la réponse dans les séries. Peut-être pas non plus. Ça se peut qu'ils ne se croisent même pas. Là.
Non, ben c'est ça. T'sais, parce que comme que c'est parti là, on se ramasserait encore avec une série de première ronde en Pittsburgh et Washington.
Oui.
T'sais, j'aime ça, tellement c'est... pas le format des séries de même. Là.
Ah, c'est tellement dégueulasse. C'est cool. Ouais, t'sais, parce tu que perds, tu perds des gros...
Des gros joueurs en première ronde.
Ouais, tu sais, t'es sûr et certain que soit Pittsburgh ou Washington, même si Pittsburgh sont plus dans l'élite de la Ligue, là, selon moi, là, tu vois que c'est plus difficile, là, mais ça reste un bon club. Ça fait chier de voir ces deux équipes-là se pogner en première ronde puis qu'il y en ait un qui tombe en partant. Mm-hmm. Mais bon.
Ben, c'est à suivre. Puis avant ça, on a ben du millage. Là. Les équipes en moyenne sont autour de 60 matchs de jouer, donc il en reste 22 à peu près, grosso modo, là, pour les équipes. Donc, il y a encore bien du millage et il y a encore quelques éléments qui pourraient bouger avec la date limite des transactions qui est le 25, donc lundi, nous, au moment d'enregistrer, lundi prochain. Le Canadien, Marc Bergevin, qui a déjà bougé deux fois, deux transactions. Je vous les place. Après ça, on en discute. Je veux savoir vos impressions. Le 9 février, Bergevin a échangé Baron Fraze et David Glass-Schlemko. À Philadelphie, en retour de Dale Weiss et de Kristen Follin. Et ensuite, le 11, le Canadien a acquis les services de Nate The Great Thompson avec un choix de 5e ronde en retour d'un choix de 4e tour. Donc, c'est grosso modo là, un joueur que le Canadien a acquis en Thompson et on a reculé d'une dizaine de rangs au repêchage là, selon le classement actuel des forces en présence. Pour l'autre transaction, là, tout le monde joue dans la Ligue américaine actuellement. Fait en gros, Thompson est avec le Canadien. Nick, t'en penses quoi de ces mouvements de personnel dignes des grandes puissances? Parce que là, écoute, on s'est renforcé. Là, moi, là, j'ai le poil qui me dresse.
Non, c'est ça. Mais tu sais, selon moi, ils ont changé 4-30 sous pour une pièce. Là. Mettons Thompson, c'est pas vraiment différent de ce que. Qui ont descendu, Chaput apporté avant. Tu sais, je vois pas un changement drastique entre les deux. Par contre, je pense que Thompson y apporte un peu plus le côté vétéran que Chaput n'avait pas. Un petit peu plus de, tu sais, ils sont meilleurs défensivement, je pense, avec lui. Puis en même temps, c'est un très bon joueur pour le face-off et pour le penalty kill. Je pense que c'est un ajout qui fait du sens. Oui, là, ils ont changé vraiment un salaire pour un salaire. Mais j'ai hâte de voir les prochaines transactions qu'il va faire, s'il y en a, bien entendu. Là, mais j'ai hâte de voir, parce que là, il a situé sur son 4e trio. Il avait sorti des médias comme quoi qu'il voulait ajouter de la profondeur sur son 4e trio. Il l'a fait. Maintenant, on a hâte de voir les prochains mouvements au courant des prochaines journées.
Toi, Sylvain?
Ben écoute, moi quand ça a sorti le trade pour Dale Weiss, moi, je vais dire, OK, ben, c'est correct qu'il se débarrasse du contrat de Schlemko. Oui, il va rester à Laval. C'est correct. Mais là, quand il y a eu le call-up, j'ai fait comme, aïe, aïe. Parce que, tu sais, on aime bien le vieux Dale, là, tu sais, il nous a donné des beaux souvenirs et tout, là. Mais il avance plus, là. Il faut se rendre à l'évidence, là, il avance plus, là. Je pense qu'il perdrait. Je pense que dans une course, il perdrait contre McCarron en ce moment, là.
Ouf! C'est ouais.
C'est lent, ça, là. Surtout que McCarron est blessé. Là.
Ouais, en plus, là. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça.
Avec
McCarron,
le bord de la rampe, là,
ouais, c'est ça. D'après moi, il perd. Mais, ouais, non, c'est ça.
La seule affaire, c'est que, tu sais, quand même, puis ça, c'est un tweet, je me rappelle pas qui le fait, là. Je ne prends pas la paternité de ce gag-là. Je ne suis pas Gad Elmaleh. Je prends. Pas moi qui l'ai écrit, OK? Mais Day-Lewis nous a quand même permis d'acquérir Dano, Romanov et de crisser Schlemko dehors de Montréal. Sérieux, retirer son chandail, là.
Ouais, temps de renommée, là.
Très là, là, tu sais.
Ah, ouais, direct.
Quand même utile, le Whale. Le Weeze. Le Whale, le Dave.
Le Weezer.
Weezer.
Le Weezer, ouais. Moi, je vous avouerai que, tu sais, grosso modo, là, j'ai rien contre Thompson. Pantoute, là, j'ai rien contre le gars. La seule affaire, c'est que j'en ai par l'utilisation qu'on en a fait. Ça a quand même souri à Claude Julien, mais lors du match. Précédent, celui-ci là, qu'on est en train de vivre contre les Flyers. Dano était absent parce que sa femme était en train d'accoucher ou était sur le point d'accoucher. Qui on a mis pour le remplacer sur le premier slash deuxième trio? On a mis Nate Thompson. On a mis ce gars-là de 34 ans qui gagne des mises en jeu, qui est bon défensivement, au lieu de placer quelqu'un comme, je dis n'importe quoi là, mais Kotkaniemi. Moi, j'ai un problème là-dedans. T'sais. Si tu as le moindrement de vision à long terme dans ton club, puis tu sais où est-ce que tu veux t'en aller, tu sais clairement que Kotkaniemi va finir par piloter l'un des deux premiers trios d'ici très peu de temps. Pourquoi tu n'utilises pas ce match-là, cette expérience-là, ce laps de temps-là pour lui donner ce temps de jeu-là, dans cette position-là, puis voir ce qu'il y a dans le corps.
Parce que la course aux séries est trop serrée, puis, tu sais, c'est vieille mentalité, là. C'est aussi simple que ça, là.
Puis le pire, c'est qu'en ce moment, Kotkaniemi passe une très belle séquence, là.
Ben oui. Puis,
je pense qu'il y a comme 8 points à ses 10 derniers matchs, puis Krim, justement, il aurait pu bénéficier de ce manque-là au centre pour, justement, donner la chance au coureur, parce qu'il joue du maudit bon hockey.
Je te dis pas que faut absolument mettre Kotkaniemi dans la gueule du loup. Tu peux manager un peu son utilisation quand même, le faire pivoter le deuxième trio, mais seulement les mises en jeu à partir de la zone centrale vers l'attaque. Tu manages un peu son temps de glace, comme on le fait actuellement, mais au moins lui donner l'opportunité de jouer avec ces joueurs-là, d'avoir avec lui des gars qui sont capables de la mettre dedans et de répondre présent avec les pièces magistrales que le petit jeune homme est capable de faire. Il te fait des jeux, il crée des opportunités que ses alliés ne sont pas en mesure de compléter. Armia, c'est ça qui est ça. Là. Ce ne sera jamais un grand potentiel offensif. Et Lekkonen est un trou noir à offensive de ce temps-là. Zéro confiance. Il n'est même pas capable de la mettre dedans dans un filet désert. Pourquoi ne pas donc utiliser cette opportunité-là pour mettre Kotkaniemi dans une chaise qui lui sciera extrêmement bien dans très peu de temps?
Oui, mais surtout pour une chaise qui se libère comme dans ce cas-là, là, un match ou deux, là, vas-y donc. Là, voyons, il peut pas. Est-ce qu'il peut faire pire que Thompson ou. Voyons, c'est impossible. Là. T'sais, parce que, en plus, c'est que, tu sais, Kotkaniemi, là, t'sais, c'est pas Galchenyuk, là. C'est un joueur qui est plus responsable. T'sais, il n'est pas unidimensionnel. Là. Il est quand même capable de suivre son homme et de prendre des bonnes décisions sur la glace. Fait que tu ne te mets pas tant en danger que ça, mais t'sais, c'est Claude Julien. Il ne faut pas en demander trop. Là. non, mais c'est vrai. Oh, ouais. T'sais, Coco, il a tout le temps été de même. Il va tout le temps être de même. Il vit ou il meurt avec ses vétérans. T'sais?
Si je ne me trompe pas, plus le match était au Centre Bell.
Oui, c'est ça. C'est que tu peux manager. Il
y a le dernier changement. Tu peux l'utiliser comme tu veux, au sens que tu veux. Là, si tu vois que tu es en zone défensive, tu n'es pas nécessairement obligé de mettre Kotkaniemi. Tu peux sortir ton Thompson, mais il aurait pu maximiser son temps de jeu pour bénéficier de son offensive, mais en même temps de minimiser les problèmes en zone défensive. Puis encore là, Kotkaniemi est très responsable. Fait que ça aurait été comme une preuve qu'il fait du beau travail, tu sais.
Mm-hmm. Il y a Alexis Détremblay, là, à chaque début de show, là, en fait, quand on détermine, quand on enregistre, je fais une publication pour demander des sujets. S'il y a des gens qui ont des choses qui veulent qu'on parle. Et Alexis Tremblay nous demande, le Canadien a remporté plusieurs matchs avec, par exemple, 40% de succès aux mises au jeu. Donc, il aimerait savoir, est-ce qu'on pense que c'est si important que ça de gagner ces mises au jeu? Et je pense que la discussion là, sur Kotkaniemi, un des points assez centrales sur la prise de décision de Claude Julien, c'est justement l'efficacité au cercle des mises en jeu. Kotkaniemi, jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, est à 45,6% et Nate Thompson est à 54,3% depuis qu'il est arrivé avec le tricolore. Si c'est vraiment ça le paramètre, j'espère, puis je souhaite que ce soit pas ça, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une mauvaise façon de prendre la décision.
Mais c'est une mauvaise façon de prendre la décision, certain. Tu sais, il y a eu des saisons où est-ce que les Canadiens étaient dans les meilleurs pour les mises en jeu, mais c'était les saisons où est-ce que ils faisaient où est-ce que tu gagnais la mise en jeu, mais juste pour pouvoir mieux la recrisser dans le fond de la zone.
Actuellement, puis, les Ducks d'Anaheim sont troisième pour le plus de gains au cercle de mise en jeu.
C'est ça. Tu vois, gars. Ça veut strictement rien dire. Tu sais, tu as des situations clés où est-ce que oui, c'est vrai que ta mise au jeu a une importance capitale. Mais je trouve tellement que cette statistique-là est overrated là, tout le temps. Parce que, tu sais, regarde là, le Canadien de cette année, quand il a la rondelle, il n'y a donc plus dans le fond de la patinoire. Et même si la rondelle se ramasse dans le fond de la patinoire, ben cette année, c'est la première fois depuis plusieurs années qu'ils ont des gars qui sont capables d'aller la chercher, qui ont le chien pour aller chercher la rondelle puis ressortir avec du coin de la patinoire. Chose que tu pouvais pas demander à Pacioretty. Puis tu sais, là, tu as des Domi puis tu as des gars comme ça qui vont être capables d'aller la chercher d'un coin puis sortir avec. Tu sais, fait que je vois. Je trouve que c'est l'excuse trop facile. Oui. La stats de mise en jeu, là.
C'est comme si tu dans la Ligue nationale, tu utilisais réellement les plus et moins pour dire « Hey, es-tu bon défensivement ou pas? »
C'est que ça peut te donner une indication, tu sais. Un gars qui joue dans une équipe gagnante puis qui est d'un moins, tu sais, si son équipe est à plus 30 puis que lui, il est à moins 20, tu fais comme « Ouah, ça va pas bien. » Mais tu sais, un gars qui joue dans une équipe de schnout, puis tu t'attends à ce qu'il va être dans les moins, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est toutes des stats qui, pour moi, veulent pas dire grand-chose, là.
L'an passé en série, les Caps de Washington qui ont gagné la Coupe étaient à 49% de réussite.
Ah, c'est ça. Mais je trouve que c'est une statistique qui ça avait plus de sens, mettons, le hockey des années 90-2000, où ça jouait pouce par pouce. Tandis qu'aujourd'hui, avec la vitesse, là, quand même que t'as peur à la mise au jeu, le jeu change tellement de bord rapidement que ça a comme plus ou moins son importance.
Je trouve que ça donne du matériel de discussion pour des shows qui sont là tous les jours. Tu sais, nous autres, on est là aux deux semaines. On ne parlera pas de mise en jeu, on s'en sac là. On parle de comment est-ce que ça se bâtit un club. On est-tu d'accord avec telle transaction? Hey, le club, ça a-t-il du bon sens, monté de même? Bergevin, fais-tu bien sa job? Mais quand tu as un show de TV ou de radio qui couvre le Canadien de Montréal, à un moment donné, là, ça te prend de la viande. Là.
Hey, nous autres, on fait un show par deux semaines, là. Puis j'ai souvent l'impression qu'on se répète.
Ah, on dit de la merde.
Non, mais pas qu'on dit de la merde, mais tu sais, il me semble qu'on dit toujours la même chose parce que ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes situations. T'imagines-tu s'il fallait faire ça à toutes les Christy Joe? Voyons donc.
Et il y aurait du chiolage à chaque jour, hein?
Eh, boy.
On trouverait surtout façon.
Surtout venant de toi, Sylvain.
Hein?
J'ai dit il y aurait du chiolage à chaque jour, surtout venant de toi, Sylvain.
Bon, c'est ça, moi je suis chiolé de service.
Ben non, on est tous capables. Écoute, revenons un petit peu dans le passé. J'ai le goût de... Puis on en a discuté, toi puis moi, Sylvain. Lorsqu'il y a eu le match entre le Canadien et les Prédateurs de Nashville, j'ai vu une genre de conjoncture là, se développer devant moi que je remarque pas tout le temps, mais là, c'était comme trop flagrant pour pas que je le voie. Pendant les deux jours avant le match contre les Prédateurs de Nashville, l'ensemble des médias qui couvrent le Canadien, j'ai l'impression que tout le monde s'est passé le même petit bout de papier. Tout le monde disait la même affaire. On nous répétait, ad vitam aeternam, que, ben oui, mais Weber, c'est un bon vétéran. Écoute, il va jouer jusqu'à 41 ans comme Chara. Il va être aussi efficace. Pas de trouble. Voyons, l'âge, c'est pas un facteur. Je sais pas si vous autres, les boys, vous l'avez remarqué, là, mais à l'entour de ce match-là, c'était le mot d'ordre. Comme si la mafia du Canadien de Montréal, qui n'existe pas, hein, ça, voyons donc, hey, contrôler le message dans les médias montréalais sur le Canadien de Montréal, voyons donc, ça n'existe pas.
Puis par quel hasard ça a tombé avant le match de Nashville, hein? Par quel hasard?
Quel hasard incroyable. Tout le monde, voyons, Weber va faire un Chara, c'est sûr et certain.
Puis chacun avait sa petite histoire sur Weber. Il y a eu ça qui est sorti. Moi, à l'émission de Jean-Charles, ils ont comme fait un petit topo qu'il y a un jeune garçon trisomique à Nashville, que Weber, c'est son joueur préféré. Puis que là...
Mais je t'en trouve des trisomiques qui trippent sur à peu près tous les joueurs de la Ligue nationale. Ça s'organise.
Ouais, okay? Mais... Je vais pas là. C'est pas mon de m'avoir dit 8000, soit là. Bref, tout ça pour dire que ce jeune garçon-là trippait sur Weber, puis il avait eu de la peine quand Weber a été parti. Puis là, whoops, parce qu'il retourne à Nashville, ben là, il sort l'histoire que chez Weber, fait des FaceTime même avec lui 3-4 fois par année. Puis, whoops, il avait sous la main une photo de ce jeune garçon-là avec un chandail du Canadien de chez Weber. Tu sais, toute la belle histoire de même. Puis après ça, il y a Chantal qui nous est arrivé avec une histoire que pendant que Mété était à Laval, qui envoyait des messages textes à Mété à tous les jours. Tu vas voir, quand tu vas revenir, ça va bien aller, on va jouer ensemble, blablabla. Tout ça dans le même 24 heures, là, j'ai fait comme, mais voyons donc, c'est, tu sais, puis en plus, c'est pour en profiter, en plus, pendant que Piqué a une saison plus difficile, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme juste pour, tu sais, pour l'enfoncer dans la gorge du monde, tu sais. Vous n'avez pas besoin de faire ça, là.
Il est là.
Il est assez bon, tu sais. Regarde, il fait sa job, puis c'est correct, là. Vous n'avez pas besoin de ça, tu sais. Je trouve juste ça poche que ces affaires-là sortent de même. Puis, tu sais, on va dire que c'est toutes des coïncidences, mais tous les journalistes...
C'est un hasard!
Ouais, ils ont tous eu une histoire sur Weber à raconter dans les 24 heures avant le match à Nashville. Mais c'est toutes des coïncidences, là.
Mais je pense que ça a coïncidé aussi avec son 900e match, ça se peut-tu?
Oui, c'était pile...
T'sais, ça a comme déboulé avec ça, fait qu'ils ont comme, je sais pas, ils se sont mis tout en gang pour dire « Hey, bonne fête Weber », mais là, c'était « Hey, Weber, t'es magnifique ».
Ouais.
Puis là, moi, je me suis dit...
Mais là, t'essayes de les défendre, là, Nicolas, fait qu'on va te demander de quitter.
Ouais. Non, mais...
Bye.
C'est ça. Va-t'en! Mais là, je me suis demandé, parce que j'ai écouté un podcast produit par une station de télé sur les activités du Canadien de Montréal, et on disait cette fameuse affaire-là. Weber va être aussi bon que Chara en même âge, blablabla. Et là, puis je leur ai écrit, puis ils ont lu mon message en fin d'émission, puis ils n'ont rien répondu. J'ai dit, grosso modo, à part parce que c'est rassurant de le croire, là, qu'est-ce qui vous permet de dire que Weber va pouvoir jouer au même rythme et de la même façon que Chara au même âge, à 41 ans. Statistiquement parlant, je sais, Sylvain, tu vas dire, bon, je vais avec ses stats. Dans la Ligue nationale, en ce moment, parmi les joueurs repêchés dans la QV 1996, combien y en a-t-il dans la Ligue qui joue cette année?
22.
Il y en a un. C'est qui? C'est Chara. Là, on parle de tous les joueurs. Là. C'est
ah oui,
un...
96. Ouais, ok, ouais. Excuse-moi.
On parle de 1 sur.
22.
Ouais, non, mais c'est ce que je pensais qu'il allait sur l'année de chez Weber.
Non. Il y en a un sur les...
Je l'écoutais pas, finalement.
Oui, non, je
comme
sais.
Comme d'habitude.
Sur les 750-800 joueurs dans la Ligue nationale. C'est même pas 1%. Puis là, ben, reculons d'une autre année. Là. Dans l'année 2017-2018, là, combien de joueurs de la QV 1996 jouaient dans la Ligue nationale? Un. À l'âge de 40 ans. On rajeunit, là. Il est encore tout seul. Fait que c'est quoi les probabilités, là? Si vraiment tu bases le succès de ton équipe dans le futur sur le fait que ton défenseur numéro 1 va jouer jusqu'à 41 ans, si c'est vraiment ça ta stratégie, Marc Bergevin, je pense pas que ta place, t'es à la bonne place là, là comme DG. Je pense pas que c'est une bonne stratégie fiable sur laquelle tu devrais miser toutes tes billes.
Non, puis tu sais, c'est surtout, tu sais, à quel niveau que le joueur est à 41 ans aussi, là.
Mm-hmm.
Tu sais, Chara a plus le même rôle qu'il avait il y a 6 ans, là. Il joue plus 27-28 minutes par match, là. J'ai pas regardé ses stats, mais d'après moi, il doit jouer 18 minutes, peut-être.
Attends, je te sors ça, parce que je suis en train de reculer. L'année d'avant, 2016-2017, la QV 96, il y a deux défenseurs, Rosival et Chara, à 39 ans. Deux, là, sur les 400-500 qui évoluent dans la Ligue nationale, là, des défenseurs.
Ouais.
Pas beaucoup, là. Cette année, Chara, temps de glace en moyenne, ça tourne autour de 20-21 minutes. Et Chara a déjà joué des 30.
Pas, je pense.
Ouais.
Ouais, puis c'est parce que, tu sais, il ne faut pas oublier aussi que Boston a du délai avec bien des blessures à la ligne bleue. Tu sais, McAvoy a été blessé presque toute l'année.
Ouais.
Tu sais, fait forcément, il a dû prendre des minutes supplémentaires, là, mais c'est justement, tu sais, Chara, à l'âge que Weber a là, mais Chara jouait 27-28 minutes facilement. Là.
Mm-hmm.
T'sais? Puis à l'âge que... Puis tu sais, Chara, à la même âge que Weber a, Chara était plus dominant que chez Weber.
Oui.
Ben, c'est sûrement t'sais... à la même âge que Weber a en ce moment qui a planté Paturity dans la bande.
ça date à peu près de ça, là, ça cette année-là. Ouais.
Si ouais. On, promet, on recule au moins 7-8 ans.
Oh ouais, c'est à peu près ça. Là. Ouais.
Donc, je trouvais ça pas mal aberrant que de concert, tout le monde utilise la même comparaison pour qualifier l'impact de Shea Weber dans le futur, l'impact assuré qu'il allait avoir. Tout le monde avait le même message. Et là, je me disais, ça se peut pas. Là. T'sais, tout le monde a eu le. Il faut qu'il y ait eu le même mémo. Là. Faut qu'ils veulent protéger quelque chose dans l'équation. Il faudrait sûrement... faut absolument pas que les gens disent « Oh, ce serait peut-être meilleur avec Piqué-Subban, finalement. »
Ouais, mais un, j'ai été surpris qu'il n'y a pas eu tant de comparaisons avec Piqué. Je pense que, justement, je pense que là, on veut l'amener au niveau de, tu sais, c'est un bon capitaine, tu sais, dans la lignée de, tu sais, regarder ce qu'il fait avec les jeunes, regarder ce qu'il fait, tu sais, dans la communauté, regarder ci, regarder ça. Tu sais, je pense qu'ils veulent l'humaniser parce que, tu sais, on va se dire les vraies choses, là. Puis, tu sais, je le répète à chaque fois, j'ai toujours aimé chez Weber, mais, tu sais, il y a le charisme de Biscuit Soda Potel. Tu sais? Il est plate. Tu sais, je pense qu'il est plus beige que Crosby et McDavid qui sont assez beige pâle. Tu sais?
Ah. Oui, mais ça, c'est le standard de la Ligue canadienne, Ligue nationale de hockey, puis c'est ça. C'est ça.
Ouais, mais tu sais, il est beige.
Pas de couleur, rien.
C'est ça. Fait que tu sais, on veut essayer de le rendre comme plus attachant. C'est ça. Mais parce que c'est ça. Tu sais, il faut dire les vraies choses. Il y a être capitaine du Canadien, ça, tu sais, il y a un certain aura avec ça. Puis, tu sais, il y a eu des grands capitaines, là, bon, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Tu sais, mais il y a eu des grands capitaines, là, tu sais, puis tout le monde, quand on parle du capitaine du Canadien, ben, tu sais, tout le monde pense à Billy Beau, puis, tu sais, mais, fait tu sais, on veut tout le temps les amener à ce niveau-là, tu sais, mais, tu sais, des gens Bilbao, il y en a pas à tonne, là.
Non, c'est sûr. J'ai eu aussi cette semaine sur notre compte Twitter de la POC, @lapocpodcast, si vous voulez nous suivre et venir jaser avec nous, c'est possible. J'ai eu une belle discussion avec l'un de nos auditeurs par rapport à John Cheka avec Matt Lamarre, qui disait que notre DG préféré, John Cheka, ne remportait jamais ses transactions. Jamais étant un bien grand mot. Préféré aussi étant un bien grand mot. Mais j'avoue que, puis gars, soyons francs, puis c'est un peu ce que je disais sur Twitter, c'est on émet des opinions, on y va d'analyse sans avoir de boule de cristal. On ne connaît pas le futur et on se permet des analyses et on les dit dans un micro, on les enregistre et on les diffuse. On se peinture dans le coin. Quand ça va bien, tant mieux. Quand ça vire pas comme on le souhaitait, tant pis, ça fait aussi partie de la game. Moi, je croyais fermement que, suite à la transaction de Drouin-Sergachev, que le Canadien souhaitait avoir un joueur de centre en Drouin, que ça n'avait pas fonctionné, que de répéter la même affaire, prendre Gatchenok, qui devait, selon moi, jouer au centre, et d'aller chercher un ailier pour le placer au centre, en Domi, c'était pour pas fonctionner. Force est d'admettre que ça a fonctionné, mais à coup de pas, John Cheka a pas gagné celle-là. Fait que Matt Lamarre, voilà, c'est gars, je l'ai fait aussi sur le show. Je suis humain, je fais des erreurs. Mon analyse n'est pas toujours parfaite.
Mais il y en a un autre aussi qui a raté bien raide, c'est celle de Strome puis Perlini à Chicago.
Mais qui s'attendait que ça marche?
Ben, Strome, moi honnêtement, je trouve qu'ils ont lancé la serviette trop rapidement. Il n'y avait même pas 40 games de jouer en Arizona qui l'avaient déjà échangé. Mais je trouve, honnêtement, que Strom, il a un coup de patin limité, mais dans une bonne organisation, je suis convaincu, puis là, on a la preuve avec Chicago, qu'il trouverait ses repères un peu comme quand il jouait dans la Ligue d'Ontario. Fait que je pense qu'ils ont juste lancé la serviette un peu trop vite, comme avec certains joueurs. Ça, c'est pas la première transaction qu'il fait avec des jeunes joueurs sans leur avoir donné totalement leur chance. Fait que, encore une fois, thumbs up à Chicago qui ont un maudit bon joueur en ce moment pour jouer avec DeBrincat. Puis ça fait un maudit beau duo en ce moment.
Oui, oui, oui.
Hey, puis Chicago sont en feu en ce moment. Ouais. Chicago en ce moment là, sont sérieusement une des meilleures équipes en ce moment. Là. Ils jouent, ça n'a même pas de sens.
Ben, c'est fou que les deux meilleures équipes dans l'Ouest présentement étaient les deux pires voilà trois mois en Saint-Louis puis Chicago.
Ouais.
Ouais.
Ça a changé du tout au tout. Là.
11 de suite pour Saint-Louis. Saint-Louis puis 8-2 dans les 10 derniers matchs pour Chicago. C'est.
Ouais. Mais tu sais, Saint-Louis, ça va faire. Saint-Louis, faut pas partir en peur. Là. Tout le monde part en peur avec leur jeune gardien. Pareil comme tout le monde, t'es parti en peur avec Carter Hart, que là, c'était les comparaisons avec Carey Price. C'est le nouveau Carey Price. Vous remarquerez là, que souvent, là, les nouveaux goalers qui rentrent là, de même, là, ils partent sur des méchantes histoires pendant 10-12 games. Mais là, oups, là, les équipes commencent à voir des films, puis la kit, là, ils trouvent des failles, puis là, Carter Hart fait deux games en ligne qu'il donne trois buts à ses 6 premiers shots puis qui se fait sortir.
On a juste à penser au Hamburglar.
Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je renie pas le talent de Carter Hart, là. C'est vrai qu'il y a un, tu sais, c'est vrai qu'il est supérieur au Hamburglar puis whatever, là, mais tu sais, faut quand même pas virer fou avec les jeunes gardiens, là.
Mais ça démontre encore une fois que des gardiens de but, il y en a qui pop partout. Là.
Ouais, mais c'est là qu'on voit, oui, des gardiens, il y en a qui pop partout, mais des gardiens qui peuvent dominer plus que 12 games dans LNH, il n'y en a pas tant que ça.
Non, ça c'est sûr. Sur la durée, c'est pas évident. En même temps, je te dirais que, tu sais, mettons, dans les 10 dernières saisons, là, les meilleurs gardiens, là, les Riné, les Price, les Bobrovsky, les Lundqvist, ils n'ont pas eu que gagner la coupe non plus. Il y a une question de timing dans les performances qui est aussi très important dans l'équation. Et le fait, moi, je pense qu'avoir une bonne équipe vaut mieux que d'avoir un bon gardien. Je préfère un gardien ordinaire devant une très bonne équipe que d'avoir un très bon gardien devant une équipe moyenne.
Oui, ça c'est sûr. Mais tu sais, ton très bon gardien, justement, va fausser la donne, va être capable de te voler des matchs pour faire la différence puis t'amener en playoff. Tandis que, tu sais, dans l'autre cas, ben oui, ton gardien peut t'en échapper une coupe, mais t'as assez de talent que ça va s'égaliser en bout de ligne pareil, tu sais.
Non, exact.
Je lisais tantôt, juste avant le show, un excellent article de The Athletics. Si vous n'êtes pas abonné sur The Athletics, régulièrement, on partage des textes sur notre page Facebook de la POC avec des extraits. Ça vous montre un peu ça ressemble à quoi comme matériel. Je sais, Sylvain, que toi aussi, t'es abonné, là. Ils ont partagé un article sur leur penchant, le LNH en français, mais avant, il était sur NHL en anglais, là, de Craig Costens qui jase avec trois DG. Jarmo Kekäläinen, des Blue Jackets de Columbus, avec Chuck Fletcher, des Flyers maintenant, et Stan Bowman, Stan Bowman, c'est la Floride?
Non, Stan, c'est Chicago.
Chicago?
Ouais.
OK, ce que je t'en dirais.
Ouais, c'est Talon, en fait.
Ouais, Talon, c'est ça. Ouais. Voilà, je mélangeais entre les deux. Sur la date limite des transactions, comment est-ce que ça se passe? Puis il y a une couple d'affaires super intéressantes là-dedans. Stan Bowman, sur les trucs, les fausses idées reçues par rapport à ce que les gens pensent, là, comment est-ce que ça se passe une date limite des transactions? Lui, il dit: le processus menant à une transaction, c'est habituellement une série d'appels téléphoniques qui s'étendent sur des jours, voire des semaines. C'est rare que je t'appelle pour te dire « Hey, on fait-tu ces deux gars-là contre ces deux gars-là? » Puis tu me rappelles une heure après, puis tu me dis « OK, on a un deal. » C'est beaucoup plus organique que ça.
Ben oui.
Et là, ça me... Tu sais, je reviens dans le passé. Tu sais, une transaction où est-ce que... Tu sais, on dit au micro... devant les médias en point de presse, que ben le gars, on le magasine pas pour l'échanger, et que le lendemain, il est échangé. Ça a peut-être donné de même là, qu'une des rares fois là, que ça se passe comme ça. Genre Subban puis Weber, là, que ça n'a pas été prémédité.
Hey, je voyais tellement pas où c'est que tu t'en allais.
Non, je suis un fin renard, OK? Je vous manipule, mes petits lapins, OK?
c'est wow. Écoute, attends un peu, je vais me ramasser à mon soir. Tabaslack. Je te voyais pas venir, là?
Un petit peu plus loin, en plus, dans le texte, on dit particulièrement les joueurs étoiles. T'sais, avant de sacrifier un premier choix, un espoir de haut niveau, un joueur étoile, tu veux aller voir jouer l'autre gars que tu vas mettre à la place parce que c'est tellement important dans une franchise que tu veux t'imaginer... Le gars, il va avoir de quoi dans ton équipe? Il va t'amener quoi versus ce que tu vas perdre?
Il y en a juste un qui suit pas ça.
Il y en a un! C'est, ça
a donné de ça commence par Peter, ça finit par Thierry Rallier.
Eh oui!
Ah, mais là, c'est, mais okay, c'est pas le même que j'avais dans la tête. J'avais Bergevin. Ah,
moi, c'était... Ah,
parce que quand t'as dit joueur étoile, jeune prospect, moi, je me suis... Tout de suite, ça me
sent... Fuck you!
Enlève ses gains.
Ouais. Ah, les Oilers d'Edmonton.
Ben à l'époque, ils étaient avec Boston, là, mais ouais.
Ouais, mais whatever.
C'est le seul qui ne suit pas les conseils de
ouais, mais tu sais, il y a eu Taylor Hall, là. D'après moi, Taylor Hall, ça a vraiment été une bulle au cerveau encore, là.
D'après moi, lui, c'était un après-midi autour de l'hier, là, puis il s'est dit, ah ouais, on le fait.
Ah, man, écoute, les Oilers qui me découragent comme ça, pas de sens.
T'as le bot contre les... Stolars, Sam Gagné.
Non, écoute. Ouais, attends un peu. En gros, là, quand tu prends le temps de décortiquer les échanges qu'il y a eu, là, dans le fond, là, les Oilers, sur une période de 3 ans, là, ils ont échangé Sam Gagné puis Jordan Eberle contre Sam Gagné pour un troisième choix.
Un esti de bon deal. Comme, tu sais, à l'inverse,
c'est ça qui reste,
Day-Louise a fait tellement du bien dans les deux sens. Là. En partant, par revenant à Montréal, c'était positif. Là, c'est pas tellement avantageux.
Calvaire que c'est laid. C'est atroce, là.
On parlait tantôt là, de Strome avec l'Arizona pour aller à Chicago. Puis Stan Bowman, il vient, tu sais, il jase de cette transaction-là. Il dit, ça, c'est une série de conversations. Les occasions sont rares où une transaction se fait rapidement. Fait qu'il réitère. Dans le cas de l'échange qu'on a fait, avec l'Arizona, le DG, donc Cheka, il nous appelait souvent au sujet de Nick Schmaltz depuis un bon moment. Je sais qu'il l'aimait depuis un an ou deux. Fait que tu vois que c'est pas d'hier. Il n'a jamais été quelqu'un que je voulais changer. Mais à un moment donné, tu te dis, et si, tu sais, tu commences à te dire, OK, mais si je te demande ça, puis t'es prêt, puis en plus, j'ajoute, tu sais, jusqu'à quel point t'es capable d'étirer l'élastique en sachant qu'un autre DG aime un joueur, il est un peu aveuglé. Tu sais ce qu'on voit là, à la date limite des transactions, là, des deals qui n'ont pas de bon sens. Là, parce que, ouais. Un, tu veux battre l'autre équipe, qui est dans la course aussi pour acquérir le joueur, mais surtout que tu aimes le gars depuis longtemps, tu vas trop le payer. Même chose à le 1er juillet. C'est un joueur que tu aimes tellement, tu sais, un Lucic que tu vois dans ta soupe depuis tellement longtemps.
Hey, OK, c'est correct, là. Hein? On peut-tu varger sur quelqu'un d'autre?
Non, mais parce que l'exemple est bon parce que justement, c'est le même DG qui est allé rechercher le joueur. Il est tombé en amour avec un joueur, tu sais. C'est dans ce temps-là que les plus grosses gaffes se font dans la Ligue nationale.
Ouais.
Un peu comme le DG de Washington qui est allé chercher Mathieu Nerat contre Philip Forsberg.
Chris, que ça, c'est... Hein?
Ah, ça fait peur tellement que... Tu sais, honnêtement, ça, c'est un move à la Peter Cherry.
Oh, oui.
C'est ça fait ce fort, là.
Puis on y a
ben, écoute, je pense même que c'est pire. Je pense même que c'est pire.
Ouais, ben, mettons en termes de one-on-one, peut-être, là, mais tu sais, quand tu calcules Eberle plus Taylor Hall, plus Séguin, dans ton CV, ça fait...
Ah, alors, écoute.
Du ravage.
C'est ça.
Kekalainen, le DG.
Kekalainen,
lui, il dit, entre autres, le 4, il est sous le bord de faire une transaction. Il aime bien ça, juste se prendre des billets dans les estrades, là, dans un arena, s'habiller avec des jeans, une casquette, une tuque, whatever, tu sais, puis d'aller voir la game à travers le monde pour pas que les autres, tu sais, les médias puissent savoir qui est là dans les estrades. C'est le même qui aime ça comme... pour finir son trade, avoir son input sans que les autres équipes le sachent nécessairement qu'il était dans l'amphithéâtre et que tous les médias soient au courant. Fait qu'un article super intéressant sur The Athletics. Allez lire ça, c'est quand même très, très long. Mais c'est vraiment enrichissant pour l'envers du décor à la date limite des transactions. Je vous invite à aller lire ça. Aviez-vous des choses que vous vouliez amener dans la discussion, les boys? Nick?
Ben, on n'a pas parlé beaucoup de transactions, mais...
Ouais, mais Sylvain, il n'aime pas ça.
T'aimes pas ça, Sylvain? Voyons donc.
Les rumeurs, les spéculations.
C'est Noël pour
non,
les
gens qui, là. Ben ouais, mais écoute, c'est parce que... En fait, c'est pas les transactions que j'aime pas, c'est juste que...
Les spéculations?
Ouais, tu sais, là, c'est rendu... Puis, évidemment, tous les joueurs passent par Montréal, là.
Ah oh, ouais.
Ouais.
Tu sais, là, je pense que je les ai tous vus, là. Cette semaine, j'ai vu des rumeurs de
Huberdeau.
Matt Duchesne à Montréal, Huberdeau à Montréal. Ouais. C'est calvaire.
OK, on va y aller à l'envers. Okay? Je pense que j'ai un petit angle où est-ce qu'on peut y aller. Jerry nous demande, là, mettons Duchesne, Stone, où est-ce qu'on les voit, tout ça. On va y aller à l'inverse. Ce soir, il y a un match entre les Sénateurs d'Ottawa et donne-moi une petite seconde, je retrouve ça, et les Devils du New Jersey. Et dans ce match-là, Stones ne joue pas, Dzingel ne joue pas, Duchesne ne joue pas parce qu'ils sont malades, pas parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils pourraient être échangés.
Et Johansson
du côté des Devils New Jersey. Vous êtes un amateur de hockey, vous aimez ces clubs-là, vous achetez des billets. Est-ce que vous vous sentez floué qu'on procède de cette façon-là pour ne pas risquer qu'un échange puisse avorter suite à une blessure dans ce match-là? Est-ce que c'est pas antisportif un peu? Est-ce que c'est pas un peu une atteinte à ce qu'on offre comme spectacle aux amateurs?
Ah, je trouve ça aberrant.
Tout à fait, là. Oh, écoute, ça, c'est... Mais c'est ça, c'est tu sais, la LNH a toujours été une business, mais maintenant, plus que jamais, tu sais, elle est une business, là, tu sais, tout est pensé à, tu sais, puis je comprends le DG que tu veux pas faire jouer du Shane dans des games qui te serviront à rien, au fond, puis bang, tu sais, il est blessé ou ben whatever, puis là, tu peux pas l'échanger, puis tu le perds comme agent libre. Je comprends que ça peut te faire chier. Mais oui, c'est un manque de respect envers les partisans. Mais d'un autre côté, si t'es partisan de l'équipe, j'imagine que tu veux essayer d'avoir le meilleur retour pour le joueur. Mais tu sais, s'ils sont pas en uniforme, parce que ils sont pas juste dans la vitrine. Là,
non, c'est ça.
C'est parce que là, leur temps est fait, puis ils vont être échangés, puis tout, mais... Je me demande à quel point que tu t'aides là-dedans. Tu sais, je trouve qu'à la limite, là, t'as quasiment l'air désespéré, là. De prendre, tu sais, ils joueront plus ici, là. Fait que je vais prendre ce que vous me donnez. Ouais. Je trouve qu'ils se donnent pas le gros bout du bâton, là.
La rumeur qui circule en ce moment, c'est que Matt Duchesne, depuis deux semaines, se promène enroulé dans du papier bulle pour être sûr de rien toucher qui pourrait le blesser. Il est prêt. À toute éventualité, il est padé. Non, mais sans farce, Jerry demandait aussi là, la situation à Ottawa. Là, c'est-tu la faute à Melnick? C'est-tu la faute à Dorion?
C'est qui ça, Jerry? Je connais pas.
Un dude, là.
Je connais pas.
Et, ben, tu sais, moi, je dirais que, si on regarde froidement là, la situation des sénateurs d'Ottawa, il y a comme deux faces à cette organisation-là. Il y a l'équipe qui met sa glace au niveau de la Ligue nationale et des échanges qui n'ont pas de bon sens. Et ça, je pense que c'est beaucoup de la faute du propriétaire parce qu'il n'a pas les poches assez profondes. Il ne veut pas payer pour ses joueurs franchises. Les Duchesne, les Stones, ça semble être une question d'argent. Carson, c'est une question d'argent et ça fait en sorte que Dorion, il n'a pas le choix de les échanger. Ensuite, tu as la portion repêchage et comment est-ce qu'on réussit à amener du talent avec cette équipe-là. Et ça, là-dessus, Dorion a un bon historique. Et on regarde là, la formation des sénateurs d'Ottawa. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe-là. Les Ketchuk, les Schlapik, les White en attaque, Yaros, Lajoie, Chabot en défense. Il y a beaucoup de talent qui s'en vient dans cette vague-là. Même qui ne jouent pas dans la Ligue nationale. Le Formanton, Batterson, ça va être très, très bon. Il y en a du talent dans cette équipe-là. Là. Il y en a à venir des excellents joueurs. Mais j'ai l'impression que c'est plus Melnick que Dorion. Êtes-vous d'accord avec mon analyse?
Oui. Ben, je suis d'accord en partie sur certains points, mais je pense pas que c'était une question de salaire qu'ils ont pas réussi à signer Duchesne et Stone. Parce qu'il avait offert quand même assez... Je pense pas mal plus d'argent qu'il va peut-être recevoir, là, Stone. Là. Ils ont offert 10,5 millions par saison. À moins que je me trompe.
Ouais,
là, mais...
moi, j'ai pas entendu ça, mais peut-être.
Ouais. Mais bref, je pense que c'était pas une question de salaire, c'est juste une question d'attitude. Les joueurs veulent pas jouer là. Puis, on le voit très bien avec Duchesne et Stone. Fait que, tu sais, c'est sûr que tant qu'à les perdre pour rien, ils ont pas le choix de les échanger. Surtout avec le flop Duchesne. Je parle pas le flop. Parce que Duchesne, il produit quand même cette saison-ci, mais plus au niveau du... ils ont fait un geste de panique dans une saison décevante. Ils ont été chercher Duchesne, puis là, ils vont perdre leur premier choix cette saison-ci, qui va probablement être un top 3. Fait que...
C'est un peu un addon aussi. Là, que, ben, un addon. T'sais, la constitution de l'équipe fait en sorte que le choix va se ramasser extrêmement haut, mais Duchesne là, a plus qu'un point par match cette saison. Si on regarde juste chiffre pour chiffre, puis, tu sais, après le Ubergate, semble-t-il que il est revenu dans les rangs, dans la formation, il est redevenu un bon leader, que ça s'est bien replacé, tu sais, c'était plus une mauvaise vague que qu'autre chose avec l'équipe cette année. Tu sais, Duchesne reste que, en termes de talent, dans n'importe quelle transaction, tu pourrais demander un premier choix, puis tu dirais, c'est pas fou, là. C'est juste qu'il tombe le premier overall, tu sais, qui fait que ça n'a pas de bon sens, là.
Mm-hmm. Définitivement.
Toi, Sylvain, ton, tes deux cents là-dessus?
Ben, écoute, c'est... mon Dieu que c'est dur à analyser du côté des sénateurs, parce que c'est un peu un ramassis de tout ça. C'est vraiment tout croche. Tu sais, oui, t'as le propriétaire Séraphin, là. Tu sais que est-ce que c'est parce qu'il est cheap ou est-ce que c'est parce qu'il veut pas payer pour ou tu sais ou est-ce qu'il est pas capable de payer pour ou un petit peu tout ça. Mais tu sais, Dorion a pas nécessairement fait des bons moves aussi. Puis tu sais, à la base, quand on analyse ce qui s'est passé aussi avec Carlson, on s'est dit, bon, on pourra pas garder Carlson si on est pour payer Stone puis Duchesne. Là, finalement, tu vas te ramasser avec aucun de ces trois-là.
Ouais, ouais. C'est ça.
Tu sais, il y a comme plein de c'est, écoute, c'est vraiment tout croche, là. C'est vraiment, vraiment tout croche. Puis, écoute, tu sais, je pense que la seule affaire qui pourrait les sauver, là, c'est que s'ils ont un genre de underground deal avec un ou avec les deux joueurs, de dire, regardez, d'aller aller finir la saison ailleurs, on va vous donner une chance d'aller gagner, puis on va vous re-signer le 1er juillet. Ça, si t'es capable d'aller chercher de quoi, puis en plus, tu re-signes tes joueurs, écoute, là, Dorion vient de remonter, ouais, c'est ça. Mais honnêtement, j'en doute, surtout dans le cas du Shane, dans le cas de Stone, c'est pas...
C'est possible, c'est possible.
Ouais, c'est ça, parce que Stone, il a l'air quand même de s'y plaire à Ottawa.
C'est une belle ville, c'est ça. Pour habiter à Gatineau puis être dans ce coin-là, c'est une belle ville. C'est l'organisation qu'on dirait que tout finit par mal virer, tu sais. Alors que théoriquement, là, je regarde le papier puis je regarde l'organigramme de l'équipe, je me dis, ça va être intéressant dans pas très long, là.
Surtout que lui a été repêché à Ottawa. Fait que, il y a un petit peu plus d'appartenance que Duchesne qui a été échangé l'année passée.
Oui. Puis Duchesne veut le 8 ans. Là. Fait que s'il quitte et il veut re-signer avec Ottawa, il ne pourra pas. Là.
Non, exact.
Il n'y aura pas cette 8e année-là. Il y a Michael Paquin là, qui aussi, lui, voulait qu'on parle des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est fait. C'est pas un spécial, là, mais presque là, sur les sénateurs. Mais c'est ça. En tout cas, moi, c'est une équipe que. J'apprécie de par sa proximité, puis aussi que tabarouette qui donne la bonne matière à jaser.
Puis, tu sais, quand tu y penses, pareil, hein, comme là, ils ont mis leurs trois meilleurs joueurs offensifs sur le marché en Stone, Duchesne puis Dezingle. Mais comment qu'une équipe peut justifier qu'ils vont échanger leurs trois meilleurs joueurs pendant la saison sans se faire crucifier? On s'entend, là. Tu sais, c'est comme si à Montréal, tu échangerais Gallagher, je sais pas.
Price Kidomi.
Ouais, c'est ça, exactement. Hey,
t'as des chances qu'il y a trois meilleurs
mecs. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais tu sais, t'as pas la même passion, puis c'est plate, mais tu sais, je pense que le monde d'Ottawa sont un peu habitué parce que ça date pas d'hier que cette équipe-là est gérée en Mickey Mouse, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme tout le temps eu du drame, tu sais, qu'on pense aux histoires avec Yashin, puis tu sais, on remonte loin, là. Mais il me semble que ça a toujours été compliqué. Il n'y a jamais rien de simple avec les sénateurs, tu sais. C'est dommage parce que s'il y a quelque chose qu'il faut leur donner, puis ça fait longtemps, là, les sénateurs, ils ont quand même un bon track record au niveau du repêchage, puis du développement de leurs jeunes, puis tout, là. Écoute, c'est une des équipes qui figure le mieux dans ce domaine-là, là. Mm. Et depuis plus d'une décennie, là.
Oh, oui.
Mm-hmm.
Tu sais, mais mon Dieu, que toute la... Tu sais, c'est comme un mauvais saut, là. Tu sais, c'est... Moi, j'imagine, là, que ça doit vraiment être dur à être fan des sénateurs parce que tu dois passer par toute la gamme des émotions, puis tu dois vouloir les aimer, mais mon Dieu que l'organisation t'aide pas à les aimer. Non,
c'est, ouais, c'est sûr.
Puis justement, tu sais, comment tu peux justifier à. Tu sais, les campagnes de renouvellement de billets de saison vont commencer, là. Mm-hmm. Comment tu peux justifier au monde de. Tu sais, à tes abonnés de dire, ben, voyons, gars, c'est pas grave, là, on a donné nos trois meilleurs éléments, mais donne-nous 20 000 piastres pareil, là. Tu sais? Comment tu peux justifier
ça? Se peut qu'il y ait des games qu'on fasse pas jouer les trois meilleurs parce que ça se peut que ce soit échangé dans le futur.
Ouais, tu sais, fait que mon Dieu, que c'est. Tu sais, j'imagine qu'être un fan des Sénateurs, ça doit vraiment être difficile, là, tu. C'est ça.
Mais c'est parce que tu vois pas le meilleur bout du tunnel, tu sais, depuis l'histoire de Carlson, là. Ah, ça, la chaîne a débarqué solide.
Mais le pire, c'est que, admettons, là, on vit dans un univers où est-ce qu'il y a des licornes et des petits anges qui lancent des flèches d'amour. Là. Pierre Dorion sort tous les trucs qu'il y a dans ses poches, tout fonctionne bien. Là. Avec ces trois joueurs-là, il est en mesure de faire en sorte que son équipe soit potentiellement dominante pour les 10 prochaines saisons. T'sais. S'il va chercher le maximum pour chacun des joueurs, si le marché fait en sorte qu'il y a surenchère, si, tu sais, il y a bien ici, je le sais, OK? Mais il y a un potentiel là de faire en sorte que ton équipe va être bonne pendant extrêmement longtemps.
Ouais,
ça
mais
reste une opportunité, là.
Oui, mais tu sais, souvent, tu sais, on parle de, tu sais, surtout, tu sais, les dernières années avec le cap salarial et tout, là, on parle tout le temps, tu sais, à chaque année, il y a un gros joueur qui est on top of the list là, pour qui peut changer d'adresse au trade deadline. Puis c'est toujours la même chose. Quand on dirait que tout le monde attend que de voir ce qui se passe avec lui, qui va l'avoir. Puis là, après ça, les autres deals vont débouler. Mais là, on dirait que les Sénateurs ont probablement genre les trois meilleurs joueurs disponibles en ce moment.
Ouais. Ah, c'est ça qui est incroyable.
Fait que c'est comme s'ils se nuisent à eux autres mêmes en même temps. Tu sais, parce que tant qu'ils ne dealent pas du chêne, ben, ils n'auront pas le max pour Stone. Puis, tu sais, tant qu'ils ne dealent pas ces deux-là, ils n'auront pas le max pour Dezinger. Fait que c'est comme, tu sais, tout est interrelié. C'est, mon Dieu, que ça se ramasse pour être un désastre.
Juste de même, Kucherov vient de marquer son 30e, donc il a atteint la barre des 100 points en 62 matchs.
Solide.
Ouais.
Incroyable.
Ouais, mais oui, c'est ça. Mais si tout s'emboîte comme du monde, c'est cette journée-là, ben en fait, cette date limite des transactions-là pourrait changer le visage de l'organisation de manière positive et pour très longtemps. Là.
Ouais, ça va dépendre de, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher comme prospect. Parce que oui, il va y avoir des, tu sais, sûrement des first round picks d'inclus. Mais t'sais, les équipes qui vont faire des moves pour Duchesne, Stone, ben c'est des équipes techniquement qui sont des contenders, donc techniquement tu vas avoir un choix entre 22 et 30, là, t'sais, ce qui est pas un si bon choix que ça. Puis c'est là que ça va dépendre de qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher comme prospect à peu près NHL ready. Tu sais, c'est ça. Ça va dépendre de, ben, des choses. Puis malheureusement, ben, Ottawa, c'est pas le genre de club à faire comme, ben, regarde, on va prendre ton gros contrat de merde en plus, mais tu vas nous donner plus, tu sais.
Ouais, non, ils ont pas... À moins que le propriétaire ait viré sa chemise de bord.
J'y crois absolument
mais
pas.
Mais c'est un gros si. Mais dans les médias, Melnick dit que l'an prochain puis l'autre d'après, la bourse est ouverte. Là. Il est prêt à investir. Mais le gars, je pense qu'il dit plus ça pour avoir un terrain sur lequel bâtir un nouvel amphithéâtre puis
mettre oui, la
c'est... puis le vendre. Là,
c'est ouais. Juste une game politique, ça. Là.
Exactement.
Mais mettons. Il y a beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai extrêmement hâte à cette journée-là. Le 25 février. Comment allez-vous suivre ça, les boys? Serez-vous en avant de la télé toute la journée puis prêt à tweeter chacune des rumeurs que Bob McKenzie lance puis Pierre Lebrun?
Non, moi, ça va être plus être les alertes RDS parce que je travaille cette journée-là. Fait que J'ai toujours gardé un œil attentif, mais parce que ça me passionne, moi, de voir les échanges quand même. Puis de savoir où est-ce que les bons joueurs vont. Ben, pas les bons joueurs, mais les joueurs vont atterrir. Mais non, ça va être du coin de l'œil, là, pas officiellement devant la TV.
Ouais, tu sais, moi, je travaille de la maison. Fait que, tu sais, quand je travaille, il y a toujours, tu sais, soit des podcasts qui jouent en background ou tu sais, de la musique ou des choses comme ça, là. Fait que moi, probablement que la télé va être allumée, puis ça va jouer en arrière-plan, là, j'imagine, là. Ça va comme ressembler à ça, là. Mais tu sais, j'ai encore vu, tu sais, c'est comme le running gag, là. Je pense que c'est TVA Sport qui annonce qu'ils vont être en direct à partir de 6h.
RDS aussi.
Ben, je comprends pas. Ça fait une couple d'années là, qu'il se passe pas grand-chose à date limite des transactions. Là. Puis ils continuent de faire ça de 6h le matin jusqu'à 8h le soir. Je ne comprends pas.
Ouais, mais tu sais, moi je comprends, là, c'est le principe que ces émissions-là dans le domaine du hockey attirent des auditeurs et donc permettent de vendre la pub. TVA Sport fait pas d'argent depuis des années. S'il y a bien une journée où est-ce qu'ils peuvent se rattraper, il faut qu'ils l'étirent le plus possible.
Tu mets le paquet.
Ben oui, c'est leur Noël. Ça, puis le 1er juillet, étire le plus que tu peux. Tant que tu peux mettre des heures d'émission spéciale puis vendre la pub à gros prix, et beurre ça, étire au maximum.
C'est sûr. C'est sûr, tu sais, mais non, moi, c'est comme ça, je vais suivre ça, puis je vais me tenir loin de Twitter, parce que à chaque fois, je vais, les deux fois par année que je vais sur Twitter, j'ai des beefs avec du monde, fait
j'y vais comme plus. C'est qui que tu m'as pointé?
Jean-Charles.
Ah, ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai eu un petit beef. Ben, c'est comme, oui, parce que dans le fond, c'est comme un des sujets, là. Je sais pas si ben toi je sais que JB tu l'as lu, puis je pense que Nicolas tu l'as lu aussi, la fameuse lettre ouverte de
Louis Leblanc,
ouais, que moi j'ai lu, puis tu sais j'ai puis ben tu sais comment dire, il y a tu sais en partant il pouvait pas nécessairement sortir gagnant de cette histoire-là, là, parce que soit qu'il aurait eu l'air d'un broyeur s'il s'était mis à blâmer tout le monde, puis fait que, t'sais, j'ai pas trop compris la démarche, mais moi, j'ai bien aimé le texte quand même, sans pointer le doigt, puis rien, tu sais, il dit que dans le fond, il sait pas, tu sais, il est pas capable de pointer une raison pour laquelle que ça a pas fonctionné. Moi, j'ai comme trouvé ça le fun. Puis, ce soir-là, l'éditorial de Jean-Charles, c'était là-dessus. Puis, il l'a ramassé, là, mais c'est un sale temps, là. Il a carrément dit que, dans le fond, ce que tu dis pas, Louis, c'est que t'étais pas assez solide pour gérer cette pression-là. Les grands comme les Lafleur ici puis ça, eux étaient capables de gérer cette pression là, blablabla. Fait que tu sais, moi j'y ai tweeté, puis tu sais comme je te dis, je vais sur Twitter deux fois par année, puis j'ai des billes, puis tu sais j'y ai juste tweeté en disant, man, j'ai vraiment trouvé que ton éditorial était malhonnête. Puis là, ben tu sais, il y a eu une petite escalade, puis finalement ça s'est quand même bien fini là, mais c'est ça.
Vous êtes allé d'un bain tourbillon, vous êtes mis un petit peu d'huile avec essentielle. Puis,
Non, parce que d'après moi, dans un bain, Jean-Charles puis moi, ça déborde. D'après moi, on met 2 pouces d'eau puis le bain déborde. Je suis pas mal sûr que c'est le même. T'sais? Mais c'est ça. T'sais, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, au moins lui, j'ai pas été bloqué de son Twitter et il m'a pas offert de me péter la gueule comme. Un certain boxeur qui m'a déjà offert de me péter la gueule.
Cherchez lequel, je viens d'arriver. C'est bon. On regarde ça pour les bloopers. Devenez Patreon et un jour, Sylvain racontera cette histoire croustillante. Comme nos autres patrons. Mais quand on a une couple, là, on fait un show spécial, les anecdotes à Sylvain.
C'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, ça, c'était mon petit beef que j'ai eu. Puis, tu sais, moi, j'ai. Je sais pas ce que vous autres, vous avez pensé du texte de Louis Leblanc. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même. Tu sais, dans la limite de qu'est-ce qu'il pouvait faire sans se faire planter.
Ouais.
J'ai trouvé que c'était un texte quand même assez honnête. Puis, qui nous permettait de voir à quelque part l'envers de la médaille. Puis, tu sais, le côté humain qu'on voit pas souvent. Là. Hey, le kid, il avait toute la pression du monde à 18 ans. Puis, il n'en déplaise à Jean-Charles, là. Faut que tu aies la tête solide en chien à 18 ans pour être capable de gérer ça. Que, à partir du moment, écoute, avant même que ton nom soit appelé au draft.
Ça scandait son nom.
Ça scande ton nom. Calvaire. Parle-moi de pression. Puis tu sais, on parle des années les plus noires du Canadien, là. Tu sais, ça allait pas bien dans ce temps-là, là. Fait que lui, c'était le sauveur, là.
Mm-hmm.
Hey, il partait avec, tu sais, écoute, c'est ça. Moi, je voulais savoir ce que vous en aviez pensé.
Vas-y, Nick. Moi, j'ai un petit angle aussi là-dessus.
Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis en plus, parce que là, comme tu dis, il faisait attention à ses propos vu que c'était un texte de la presse, si je me trompe pas.
Oui, c'est Radio-Canada.
Radio-Canada.
Mais j'ai écouté aussi un podcast où ce que là, il déballait un petit peu plus en profondeur sans nécessairement mettre la faute sur, mettons, l'organisation, sur un coach en particulier. Il parlait juste que, tu sais, c'est une question de contexte, mais je trouvais ça très intéressant. Puis un des propos qui m'a vraiment, en bon québécois, flabbergasté, c'est que, tu sais, il se faisait interpeller, puis le monde, il disait, comment ça? Tu sais, comment ça se fait que t'as pas réussi? Puis comment ça se fait que ça a pas marché? Puis il dit, Grim, tu penses-tu que je faisais exprès pour pas que ça fonctionne? Tu sais, j'étais le premier à vouloir gagner une Coupe Stanley avec les Canadiens. Tu sais, c'est ça qu'on y reprochait, ben pas qu'on y reprochait, mais que le monde, les médias et compagnie, y reprochaient. C'est comme quoi qu'ils voulaient pas, qu'il y avait aucune attitude, puis qu'ils voulaient pas se bouger les fesses pour, tu sais, pour réussir. Mais dans le fond, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Là. Ça donnait comme un autre visuel sur la situation de Louis Leblanc. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi aussi, au départ, avant d'avoir lu ça, je me disais, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Puis en lisant ça, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas parce que l'humain ne voulait pas, mais c'est plutôt que c'est une question de contexte puis de facteurs que ça n'a pas fonctionné.
Ben, je pense que, justement, c'est peut-être là où est-ce que ça a accroché pour certaines personnes parce que dans son texte, c'est « Ah, telle affaire, c'était plus ça. Ah, telle affaire, c'est... » Puis il y a un peu, ça donne un peu l'impression qu'il jette le blâme sur tout le monde sauf lui. Mon impression à moi, là, bien personnelle de tout ça, c'est que je suis convaincu qu'en dehors du talent, en dehors de l'acharnement puis de la bonne volonté là, que tu mets, dans l'équation, il y a aussi bien d'autres éléments que tu ne contrôles pas. Je suis convaincu que tu sais, il y a un changement de DG, changement de formation. Tu sais, il y a tout plein d'éléments comme ça que tu ne contrôles pas et qui peuvent avoir un impact. Louis Leblanc, au moment où est-ce qu'il était dans le giron de dans le fond de la Ligue nationale là, du Canadien et qui s'est ramassé avec Saint-John, maintenant c'est Laval, là, mais le club de la Ligue américaine, il y a eu un changement de direction. C'était plus. Et lui, il était le porte-étendard, dans le fond, c'était un peu comme le symbole, tu sais, le premier choix, le dernier de l'ancienne organisation.
Mm-hmm.
Je sais pas s'il y a peut-être eu un truc de « Hey, si on lui donne toute la lumière, là, si ça vient valider ce que l'ancienne administration puis l'ancienne garde... » Je ne sais pas là, jusqu'à quel point, là, mais je suis convaincu que ça a pu avoir un impact. Est-ce que le message passait toujours bien? Parce que comme tu disais, Sylvain, peu importe ce qu'il disait, tout le monde allait avoir un peu sa vision puis il pouvait pas bien s'en sortir. Mais le détachement de lui, ce qu'il a fait versus que ça a marché ou non, j'ai l'impression que il met peut-être un peu trop la faute sur la conjoncture des événements, même si je suis convaincu qu'effectivement, ça a pu avoir un impact. Et ça l'a eu un impact, j'en suis sûr.
Oui, ben oui, tu sais, parce qu'il y a eu justement ce changement de garde-là, puis tu sais, là, il se ramassait à aller jouer pour Lefebvre à Saint-John, que tu sais, Lefebvre n'a pas développé personne dans cette organisation-là. Là. Tu sais, mais tu sais, moi, il y a des séquences dans son texte que, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on se doutait, mais que j'ai aimé qu'il dise, tu sais, que, tu sais, par exemple, que le Canadien, il a plus ou moins tordu un bras pour qu'il abandonne ses études à Harvard pour aller finir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis que, tu sais, il se pose la question, est-ce que ça aurait été mieux si j'avais fait un an de plus à Harvard, justement, puis après, tu sais, peut-être que oui aussi, tu sais. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant que ça, il lève le voile là-dessus, puis qu'il dise que, regarde, ça faisait pas l'affaire du Canadien, que ses études étaient importantes pour lui, puis le hockey à Harvard était important pour lui aussi, puis... Tu sais, ça, c'est la triste réalité, là, aussi, là.
Puis on en connaît plein, tu sais, des jeunes joueurs qui sont repêchés, puis, tu sais, le fameux « Ah, j'ai eu une grosse blessure », puis ça... Il y en a, tu sais, des éléments que tu contrôles ou que tu contrôles pas qui rentrent en ligne de compte. Louis Leblanc, je sais que pendant un bout de temps, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou non, mais il y avait des questionnements par rapport à ses... comment je dirais ça, à ses aptitudes interpersonnelles. Tu sais, que c'était pas le gars... tu sais, il pouvait être awkward un peu avec les gens. Tu sais, quand t'es pas... tu sais, quand tu changes d'organisation, quand tu changes de direction, puis que t'as peut-être pas les aptitudes sociales les mieux développées, et que, tu sais, c'est pas eux autres qui t'ont embauché, ben t'es peut-être pas capable d'aller les regagner, puis d'aller rechercher cette sympathie-là, puis tomber dans les bonnes grâces. Tu sais, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte dans tout ça, que déjà, il a été dans la Ligue nationale, il a joué dans le plus gros circuit au monde de hockey, le plus haut niveau, et il avait pas de l'air de pas être à sa place. C'est quand il était un joueur de la Ligue nationale. Et ça, là-dessus, ben écoute, au Québec, c'est quoi? C'est quoi le pourcentage des joueurs, là? C'est du monde qui chose des patins dans leur vie qui atteignent la Ligue nationale.
Ah, ben lui, il le fait. C'est 0,05%, je pense, c'est une histoire la même. Là,
lui, il le fait.
C'est comme ridicule. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, de mémoire, il n'y a pas mal paru. C'est juste que, malheureusement, les gens ont fait comme c'est un premier choix. C'est un Québécois. C'est Guy Lafleur.
Mais, l'équation.
Non, mais. Non, puis ben, tu sais, les exemples sont nombreuses, là. Tu sais, c'est toujours comme ça. Aussitôt qu'il y a un Québécois moindrement potentiel, c'est Guy Lafleur. Calvaire, faut que t'aies les épaules solides pour porter ça en arrivant, là. Tu sais, puis, Jonathan Drouin, quand il s'est fait échanger, il venait de finir de mettre son chandail, puis il y avait déjà un texte de Bertrand Raymond qui disait que c'était le plus grand depuis Guy Lafleur. Calvaire, on peut-tu se calmer? Il a même pas donné un coup de patin encore, là. Ouais. Tu sais, il a même pas rencontré son coach encore. Fuck all, là. Il a juste mis le chandail du Canadien puis mis sa signature en bas d'un contrat. C'est tout, là. Ben, on peut-tu se calmer?
Je voulais un petit peu... même affaire, là. Là, on a eu Dale Weeks, là, qui est venu, là. La semaine passée, là, au moment de l'échange, là, tout le monde, il va emmener de la vitesse, c'est à la quatrième ligne, blablabla. J'avais vraiment le goût, là, de prendre, je sais que j'ai pas les droits, on pourrait pas le diffuser, là, mais de faire le avant puis le après, tu sais. Le moment de transaction, les commentaires élogieux, Deslouise est une date, telle affaire, super élogieux, puis après ça, de faire le après, tu sais, quand la réalité arrive puis frappe la fan, là, tu sais. C'est constamment comme ça à Montréal. Ça en est pénible. Parce que tu te dis, il n'y en a pas un qui fait une analyse qui a vraiment de l'allure.
Non, mais tu sais, c'est parce que... Puis, je me ferai pas d'amis ici, là, en disant ça, là, c'est sûr et certain, là. Mais tu sais, je pense que j'insulterai pas nos auditeurs en tant que tels, parce que je pense que nos auditeurs, c'est des amateurs de hockey. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que... Puis je vais inclure autant l'amateur du Canadien moyen que les journalistes qui couvrent le Canadien. Ce sont pas des experts du Canada, ce sont pas des experts de hockey, ce sont des experts du Canadien. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe à Montréal, mais ils ne regardent pas d'autres hockey. Ils ne regardent pas ce qui se fait ailleurs.
Mm-hmm.
Ils ne regardent pas ce qui joue ailleurs. Puis, vous le remarquerez, là, tu sais, quand vous faites des poules avec du monde, qui suivent le Canadien, puis whatever, là, vous remarquerez que la majorité des gens, 80% de leur poule, ça va être des joueurs qui jouent dans l'Est. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui voient souvent contre le Canadien. Moi, je gagne des poules parce que je vais chercher des gars de l'Ouest souvent. T'sais, justement parce que moi, je les vois jouer. T'sais, mais je vois autant des gars de l'Est que des gars de l'Ouest. Puis, tu sais, je dis pas que je suis le plus grand des connaisseurs. Là. T'sais, j'essaie pas de me valoriser, mais moi, j'aime le hockey. Fait que moi, je regarde du hockey, pas juste le Canadien. Puis c'est là la différence. Puis malheureusement, les gens qui sont attitrés à la couverture du Canadien, et ce peu importe le réseau, ne regardent que les matchs du Canadien.
Ah, c'est aussi pour ça que leurs propos sont tu sais, il n'y a pas de zone grise, là. C'est noir ou blanc. C'est le prochain Wayne Gretzky, c'est le pire joueur de l'univers. C'est toujours soit que c'est trop beau, comme au repêchage, qu'à chaque année, on entend hey, « les Canadiens, ils ont volé le repêchage. » Ou après ça, c'est « Tabarnouche, Timmins fait une job de marde. Il n'est pas grave de repêcher quelque chose qui vaut du bon sens. »
Tellement.
C'est deux pas de mesure, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise jamais. Mais c'est ça que ça fait quand tu n'as pas de comparatif ou tu ne regardes pas ailleurs ou tu sais, tu vois pas que au repêchage, il y a un certain pourcentage, mais c'est pas toutes les équipes qui repêchent Henrik Zetterberg ou Datsyuk en septième ronde.
Non, puis c'est extrêmement rare aussi. Il faut ramener... tu sais, on sort tout le temps cet exemple-là, Datsyuk Zetterberg, parce que c'est le même club, puis à deux années d'intervalle, ou deux, en tout cas, pas très ouais. loin. Mais dans leur histoire, c'est pas mal les deux seuls shots. Oui,
oh, ouais, puis tu sais, c'est quand même rare que tu vas chercher des joueurs aussi loin qui vont avoir de l'impact.
Un impact aussi grand. Revenons à Louis Leblanc. Je m'amuse là, tranquillement pas vite pendant qu'on jase à me dire, OK, mettons que le Canadien veut absolument repêcher un Québécois dans ce draft-là, parce que ça se passe à Montréal, on le rappelle, hein, il y avait une conjoncture aussi là-dessus. Dans les joueurs classés en première ronde qui étaient disponibles et de la LHJMQ, qui y avait? Il y avait Jordan Caron, Philippe Paradis, Simon Després. Il n'y avait pas de recette miracle pour aller chercher un Québécois qui allait avoir un gros impact à la hauteur de la pression qui allait venir avec le fait d'être repêché en première ronde à Montréal par le Canadien. C'est Louis Leblanc, c'est lui qui a assumé ça, mais il n'y en a pas un autre qui aurait pu remplir ça.
Ben encore une fois, c'est le foutu, la fixation du Canadien d'avoir l'énigmatique joueur québécois qui va percer l'alignement et ça va être la prochaine légende. Hein. C'est toujours le même discours.
Ouais, mais ça, c'est parce que ça, ce qui était encore pire, c'est que le draft était à Montréal, ça lançait les célébrations du centenaire. Effectivement, tout ça mis ensemble, là, a créé le shitstorm qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Parce que si ce draft-là n'est pas à Montréal, pas mal sûr que Louis Leblanc n'est pas le choix du Canadien. Puis, tu sais, si c'est pas les célébrations du centenaire aussi, puis tu sais, avoir des Québécois, parce que là, c'était des années où est-ce que, tu sais, les gens chialaient qui avaient passé le Québécois à Montréal, puis ben, tu sais, ça, c'est un autre. Fait que, c'est toute cette conjoncture-là a créé ce shitstorm-là. Là.
Le meilleur Québécois disponible au rang du Canadien, là, c'était en. Finalement, il a abouti à Columbus, choix de quatrième ronde, 94e au total, David Savard.
Ouais.
C'est le meilleur Québécois, tu sais, par rapport à. Tu sais, il y en a là, qui auraient été un petit peu mieux que Louis Leblanc, mais. Vraiment, là, un joueur qui a un impact de premier, voire deuxième plan dans la Ligue nationale, c'est le seul.
Puis tu sais, encore là, si on se remet dans le contexte de l'époque que Sylvain Lefebvre s'amène à St. John's ensuite, est-ce que David Savard peut se développer comme il s'est développé là?
Je sais pas, mais je ne mettrais pas un gros deux là-dessus. Là.
Moi non plus.
Fait que, tout ça pour dire que... T'sais, les dés étaient pipés. et qu'il n'y avait pas de façon, un, pour le Canadien de s'en sortir avec cette mentalité-là, d'absolument vouloir un Québécois lors de cette occasion-là. Et à l'inverse, pour le joueur québécois qui était pour aboutir là, il n'y avait pas de façon de s'en sortir. C'est plate, c'est Louis Leblanc, puis il doit encore assumer cette réalité-là parce que, comme il disait dans l'article en question, il se fait encore demander pourquoi. Puis on est quoi là? C'est quel draft ça? C'est 2009. On est 10 ans plus tard, là, presque 10 ans plus tard.
Ouais. Mais ça, c'est l'affaire que je comprendrais pas. Comment ça tu rencontres Louis Leblanc encore là? Puis que tu vas aller demander, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voyons. Je comprends pas.
À quel point oui, c'est important pour toi de chier sur un Québécois qui a été drafté par le Canadien, tu sais, pour te souvenir de sa face, un. Puis deux, que ça soit ça ton premier réflexe, là.
Ouais, puis tu sais, tu t'attends à quoi, là, qu'il va te dire, ouais, c'est de la faute de lui, de la faute de ça, ou, oh non, c'était juste parce que j'étais pas assez bon. Voyons, qu'est-ce que tu t'attends comme réponse? Tu sais, en tout cas.
Les mystères de la vie.
Les gens,
ouais. Si vous voulez nous aider, si vous voulez supporter la POC, vous voulez faire partie de l'aventure, vous pouvez devenir l'un de nos patrons. Patreon.com/la POC. Faites comme Alexis Daou-Tremblay, Jean-Philippe Vandal, André Houle, Pierre-Yves Giacometti, Adrien Lambert et tout dernièrement David Rondeau. Devenez l'un de nos boss et aidez-nous à propulser la POC encore plus loin. Vous avez aimé l'épisode? Vous êtes les bienvenus. On aime ça jaser de hockey. Merci, Sylvain.
Ben, c'est toujours un plaisir.
Merci, Nicolas.
Ça fait un plaisir.
Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode de la POC post-date limite des transactions. Est-ce que Marc Bergevin va bouger? Est-ce que la terre va trembler? Est-ce que le Canadien va gagner la coupe? Pense pas. Rien de tout ça n'arrivera, mais on vous en reparlera dans le prochain show. Bye-bye, tout le monde!
J'étais rendu chum avec Ginette, mais là je suis rendu clean, rendu correct, permettre. veulent dans le ghetto. Y'a regardé dehors, il fait pas beau. En face, une grosse tour à bureau. Ça a l'air que l'on s'est plus long.
Voilà. C'était good. Ça.
Merveilleux. Il y en a qu'un 3 buts à soir.
Ouais, ouais, il approche du 30.
Ouais, il est à 26. Là.
Ouais. Je pense pas qu'il va pouvoir toffer la run pendant 5-6 autres saisons. Là,
non, ça c'est sûr que non. Encore une fois, son deuxième but, il était planté dans notre dinette. Ça
ouais, mais tu sais, ça c'est son pain et son beurre.
Ouais, exact.
C'est ça.
J'écoutais, c'est Pierre Lebrun. J'écoutais Pierre Lebrun, justement, on jase, puis il parlait de Wayne Simmonds, qui s'en vient agent libre, puis tu sais, de dire, hey, moi, c'est un joueur que j'aime bien, je le verrais, mettons, avec Tampa Bay, parce que, justement, c'est le grit qui manque. Mais il a dit quoi qui est comme... vous allez voir le lien avec Gallagher, là. Il a dit, ce pourquoi... tu vas payer Wayne Simmonds, c'est parce qu'il t'amène du grit, c'est parce que c'est son style de jeu. Et c'est aussi ce pourquoi ça ne te tente pas de le mettre sous contrat à long terme et de le payer trop cher. Parce que ce qu'il amène, ce qui est son pain et son beurre, c'est aussi ce qui va le planter à la fin.
Ouais, c'est sa kryptonite, là.
Ouais.
Ouais. Ouais, sauf que tu sais, Simmonds n'a pas le même gabarit que Gallagher aussi, non?
Non.
Non, mais le principe s'applique aussi, là.
Oui.
Ça s'applique à un Shaw, ça s'applique à un Gallagher, ça s'applique à ce genre de joueur-là que tu dis. Ce qui fait qu'ils sont bons et efficaces dans la Ligue nationale, c'est aussi ce qui fait que Chris, qu'ils joueront pas longtemps, puis que c'est dangereux de les mettre à trop long terme sous contrat, tu sais.
Ben, surtout que, d'après moi, ça va finir, mettons, avec un 5-6 millions, tout dépend de l'équipe qui va vouloir le signer. Ben, tu sais, je connais
c'est
pas ça. Ben, pas mal sûr qu'au 1er juillet, là, les équipes vont quand même. Pitcher devant lui pour.
Je pense que c'est plus que 6.
Ouais, c'est exactement ça.
Okay. D'après moi. Je pensais vous penser que je disais pas.
Non.
Mais tout ça pour dire que ça va finir comme un Backus, un Ladd ou un Lucic, que il va pouvoir peut-être donner une première bonne saison, mais comme JB disait, ça sera pas sur le long terme.
Écoute, Silverberg a signé à 5,25 hier. Là.
Ouais, exact.
Puis, tu sais, je prends Wayne Simmonds avant Silverberg any day. Là.
Ouais.
Silverberg, il a 24 points cette année. Hein.
Mais, tu sais, Simmonds, c'est le genre de gars que probablement qu'il y a un DG qui est en amour avec lui depuis trop longtemps, puis il va tomber dans le panneau. T'sais.
Ah ouais, définitivement.
Ouais.
Juste à savoir c'est lequel, tu sais. Puis j'ai l'impression que s'il arrive sur le marché des joueurs autonomes, Bergevin pourrait tomber dans ce panneau-là.
Je suis pas sûr. Avec la gaffe.
Ben, avec qu'est-ce qu'il y a. Ben, ouais, puis avec. Tu sais, le grit, c'est pas ça qui manque, là. Tu sais, il manque un peu de
finesse, de talent, je pense, à l'aile droite, là. Moi, je pense.
Ouais.
Premier trio, le deuxième, hein.
Ouais, hey, on n'a même pas parlé de les deux têtes de clous qui sont.
Columbus?
Qui se sont battus contre Columbus, là. Shaw qui est à un coup de poing sa gueule de prendre sa retraite. Tu sais, t'es un asti de jambon. Domi, là. Quelle asti tête de clou. Cette bataille-là, là, j'en venais juste pas, là. Écoute, ton club vient de se faire caler, tu sais, tu t'en vas en power play, là. OK? Puis, c'est pas le check le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Puis, Foligno est même en train de s'excuser.
C'est un client en plus, là, Foligno, là. C'est pas. Il est capable de dropper une mitaine, là.
Ouais. Puis, tu sais, tu vois que c'est vraiment un geste accidentel. Il s'excuse aux joueurs, puis il jase longtemps, puis. Domi, la tête de clou, il est même pas assez intelligent pour se dire, hey, attends un peu. Dano est pas là. Si moi, je droppe les gants, Il reste qui au centre? Il reste Thompson. Je fais, ah, fuck you, je drop les gars.
Ah,
ouais. Il a cette tête de clou. Tu sais que ton équipe s'en va en power play. Puis que tu vas jouer sur le power play. Au lieu de dropper les gars comme un jambon, va donc les en crisser un dedans à la place.
Ouais, mais ça, c'est jouer leur là.
Tu sais, si tu veux leur pogner plus tard, ben là, tu leur pogneras plus tard, tu sais, à la limite, là. Mais moi, c'est ça le problème que j'ai avec Max Domi. C'est. Tu sais, il est hot-tempered, là. Il maîtrise pas ses émotions. Ce qui est tout à fait l'inverse de Gallagher. Tu sais, Gallagher va faire perdre la tête à un gars de même.
Ouais.
Tu sais, que le gars va oublier que son équipe s'en va en power play, puis tout, puis il va dropper, puis il va faire la gaffe, tu sais. Fait que, mais c'est ça.
Mais c'est important de jouer l'horloge, puis de jouer le score, puis ça, Domi a de la misère à le faire, là.
Ah ouais, disons que c'est pas le crayon le plus aiguisé dans le bois.
C'est parce qu'il saute souvent sa coche dans des moments où c'est complètement stupide qu'il saute.
Ben, totalement.
Comme avec Vlad, ou une autre fois dans, au début de la saison, là, il a sauté sa coche, mais il n'a même pas besoin de le faire. Là.
Non, vraiment pas. C'est... Je comprends pas, mais bon, c'est ça. J'enlève rien à son talent, puis rien. Puis, tu sais, je comprends que ce gars-là, c'est comme ça qu'il va avoir du. Tu sais, c'est ce qu'il est qui fait qu'il a du succès. Tu sais, c'est son côté un peu hot-tempered, puis tu sais, qui a le nez dans le trafic, puis tu sais, qui a pas peur de rien. Puis, c'est ce qui fait qu'il a du succès. Mais il faudrait qu'il apprenne à doser ses émotions. Puis, ça, je pense que ça vient du paternel aussi, qui était pas le meilleur pour gérer ses émotions. Tu sais, fait que je pense pas que ça va s'améliorer nécessairement. Mais ça, quand je l'ai vu faire, j'ai fait comme, ben voyons donc, t'es vraiment innocent.
Mais c'est parce qu'il comprend pas que, tu sais, il est une pièce importante de l'attaque du Canadien, tu sais. S'il se pète une main demain matin, là, ou qui se fait faire une commotion parce qu'il se fait sonner, vu que, tu sais, c'est pas non plus le plus gros, là, justement, comme Foligno, tu sais, Foligno, c'est une sapristi de pièce d'homme, là, comme un peu Beaulieu qui avait pogné son chemin contre lui, là.
Ouais, pis tu sais, dans ton club, tu sais, t'as des Deslauriers, t'as des Thompson, à la limite, tu sais, des gros bonhommes qui sont capables. Tu sais, si ça avait été un check vraiment dégueulasse, à la limite, je fais comme, OK, tu sais, le gars, il fait ça pour son équipe. Mais c'était pas le cas, là. Tu sais, c'était clairement un geste accidentel. Puis Foligno était déjà en train de s'excuser, tu sais.
Ouais.
Arrête, là. Tu sais, ça vaut même pas la peine.
Petite question, elle change de sujet complètement. Petite question quiz, les boys.
Vas-y.
Qui est l'attaquant, le deuxième attaquant le plus utilisé ce soir par Claude Julien?
Joe Langia.
Andrew Shaw?
Non.
Thompson?
Ouais.
Voyons.
En fait, Lekkonen est avant, excuse. Fait que troisième, c'est Thompson.
Mais attends,
Lekkonen, le deuxième?
Ouais.
Sacrement.
C'est Dano le premier. Je sais pas s'il y a eu des pénalités, là, ça serait ça qui ferait que, tu sais, Dano, Lekkonen, puis Thompson, en désavantage numérique, aurait eu 100 glaces de plus, là, mais... Notre Kanemi est à 11,45 d'utilisation, ce qui veut dire moins que PK.
C'est terrible. Puis tu sais, dans une...
5 à 1, là.
C'était exactement ce que j'allais dire. Asti, si t'es pour lui donner du temps de glace, c'est vas-y, là. Amuse-toi le kid, vas-y.
Je l'ai regardé du coin de l'œil, en plus, il y a une bonne game, Notre Kanemi, pour le 11 minutes qu'il joue, là.
Ah ouais?
À chaque fois qu'il est à la glace, il y a quelque chose qui se crée,
mais ben, c'est rare qu'il n'y ait pas des bonnes games, anyway. Là.
Ouais, c'est ça, exact.
Tu sais, pour être honnête, là, c'est rare qu'il n'y ait pas des bonnes games. Tu sais, je ne l'ai jamais vu vraiment prendre des mauvaises décisions, puis rien. Tu sais, il est solide, le kid, quand même.
Ah, ouais.
Il a une bonne tête, ses épaules, puis je sais pas. Mais ça reste une des énigmes, là.
Ah, ouais. Mais c'est ça. C'est Montréal. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais, c'est Coco Julien. C'est ça.
Bon, ben écoute, on va finir ça là, là. On va aller faire le montage, yes. Puis on se reprend. Hey, on fait-tu spécialement un show la semaine prochaine pour être proche de la date limite des transactions?
Moi, je serais dispo.
Parce que si on en parle dans deux semaines, c'est un peu loin, là, avec les trades, là.
Ouais, on pourrait...
On serait un petit peu trop off-beat, là.
Ouais, on pourrait regarder ça, mais, tu sais, tant qu'à le faire, là, moi, je le ferais lundi soir direct. Puis on drop ça le mardi, tout est frais, tu sais, ouais, on est vraiment ouais. Dedans, là.
OK, mais écoute, laisse-moi
moi, c'est ce que je ferais, là,
mais... Ça pourrait se faire.
Checker ça de votre bord, mais tu sais, moi, je pense que ça serait notre meilleur timing, ce serait ça.
OK.
Tu sais, ouais. Fait que tout est frais, puis tu sais, le lendemain, on drop ça le matin, fait que le monde peut l'écouter là. Sinon, mais regarde, tu sais, on le fera le mardi ou ben, le mercredi soir, là, whatever, mais si on est capable, si ça marche avec quelques-uns entre nous, ce serait merveilleux de le faire lundi. On serait vraiment dans l'actualité.
Ouais. OK, c'est bon. J'arrange mes flûtes, puis ça devrait pouvoir se faire lundi.
C'est good. Fait que tu veux-tu faire un message pour au pire avertir Eduardo aussi? Puis,
Ben, tu peux-tu le faire pendant que moi je fais le montage?
OK, c'est bon.
Que, ça peut être plus tard.
Faut tout que je fasse.
Ben oui, c'est ça. Je vais en faire le montage, mais c'est toi qui fais tout. Ben oui,
c'est moi qui fais tout. OK, c'est bon.
Ben, hey, bonne fin de soirée, les boys.
Yes, ciao.
Salut. 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 Salut.